Donc, Masechet Yuma, Perek Rishon, Daf Yud, Amoud Aleph, on était arrivé, Bidjouk. La deuxième ligne. Alors, là, on avait dit que le Beit HaMikdash HaRishon a été construit par...
Détruit.
Construit par un juif, donc automatiquement, la Shrina a résidé, alors que le Beit HaMikdash HaSheni a été construit par Yefet, par les Perses, qui viennent de... d'un des trois enfants de Noach, Shem, Ham et Yefet, d'accord, Vishkon Baol le Shem, Gav de Yefet Elokim, Yefet Elokim le Yefet, et la Shrina Shura et la Baol le Shem. C'est pour ça que la Shrina elle résidera que dans la tente de Shem, ça veut dire le Beit HaMikdash qui a été construit par Shem, par, donc là c'est les Juifs par Shlomo HaMelech, là résidera la Shrina. Mais le Beit HaMikdash qui a été construit par Yefet, la Shrina ne réside pas. Vishkon que dans le Shem. Alors, bien que c'est les Juifs qui ont construit le Beit HaMikdash HaSheni, c'est Ezra, Nehemiah, c'est etc. C'est les Perses qui ont donné la permission, d'accord. C'est Koresh II, on avait dit, qui donne la permission aux Juifs de remonter en Eretz Israël, de construire. Il a donné même des d'argent pour ça. Donc on considère. Et puis celui qui gérait après le Beit HaMikdash, celui qui avait, il a instauré que à l'entrée principale du Beit HaMikdash. Qu'on met à l'entrée du principal, on verra ça peut-être plus tard dans ma Masechet Yoma, je crois. Il a instauré qu'on fait une décoration de l'entrée de la ville Shushan. Pourquoi? Pour se rappeler que, vrai, vous êtes ici, mais bon, le patron il se trouve à Shushan. Shushan c'est Perse, à l'époque c'était la capitale de Perse, d'accord. Et ce char là, on l'appelait char Shushan, Bémet. Pendant une période, on l'appelait char Shushan, parce qu'il y avait la ville Shushan qui était gravée ou je sais pas quoi. D'accord, sculpté, et donc pour montrer que, n'oubliez pas, c'est nous les patrons. Donc on considère tout ce Beit HaMikdash numéro 2, on considère en tant que fait et construit et géré par Yefet, et donc il n'a pas de Shrina. Maintenant la Gemara va essayer de nous prouver d'où on sait que, que les Perses ils viennent de Yefet. Donc, la Gemara nous dit, « Mais n'allant de mi Yefet qu'à tout ?» Ou par ça, pardon, ou par ça, des Perses. Minalan de Yefet Kaatou. Donc on sait qu'il vient de Yefet. Dirti, nous dit la Gemara. Alors, c'est qui les enfants de Yefet? Donc on dit, il y avait Noach, d'accord? Il y avait trois enfants, Shem, Ham, de Yefet. Quand on parle des enfants de Yefet, Ben Yefet, c'est qui? Gomer, 1, Magog, 2, Madai, 3, Yavan, 4, Tuval, 5, Mesher, 6, Tiras, 7. Et bien, 7 gosses, le petit Yefet. D'accord? Alors, la Gemara explique, Gomer, c'est qui? Zo Germamia. Alors, le grand Divina, il nous fait, il avait la carte du monde dans sa tête, même qu'il n'a pas la carte dessinée. Il disait que Shem, Ham, Yefet se sont dispersés dans les trois coins du monde, un au nord, un au sud et un à l'est.
Qui c'est qui a pris le quatrième?
Il n'y avait pas. Ils ont les trois frères, c'était Sarakol. Donc, il n'y avait pas de quatrième. Quand on parle du nord, c'est le nord, pas le nord du monde, c'est pas l'Alaska, etc. C'est le nord de, c'est l'Europe.
L'Europe.
D'accord. Donc les enfants de Yefet ont reçu en territoire, ils ont reçu donc Yavan, Macédoine, tout ça. D'accord. Les enfants de Yefet, d'accord, ils ont reçu plutôt le sud, l'Afrique, hein, le sud on parle autour d'Israël, hein, c'est pas le sud du monde. Plus vers le bas.
Nord-Afrique.
Et les enfants, voilà. Et les enfants de Shem, ils ont reçu la partie d'Eretz Israël, toute la partie est qui est. Donc on verra après tout ça. Alors là, on parle maintenant des enfants de Yefet, qu'eux, ils ont reçu la partie nord.
Alors le premier. L'Afrique noire, ça vient de couche. L'Afrique noire, ça vient de couche, non?
Ouais, Ham.
Et couche, c'est Ham, c'est l'autre frère.
Bidjo,
voilà. D'accord.
Hazak. Alors, le premier, c'est Bnei Yefet Gomer. Gomer, c'est Germamia. Alors, Germania, c'est pas la Germanie,
l'Allemagne.
C'est pas l'Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est l'Europe, c'est partie des enfants Non, de Yefet, oui. Non, attends, Michila.
Gomer.
Germania. Parce que, voilà, il y a Germania chez l'Edom, il y a Germania tout court. Ici, il te dit Germania qui est ici, c'est pas l'Italie, Bikitsu. C'est une ville qui était proche, donc, du Tsafon, mais c'est pas. C'est pas l'Allemagne. Germania, ça s'appelle. Voilà.
C'est un peu la Pologne russe, là. D'après le plan. Là.
Ouais.
C'est un peu la frontière Pologne-Russe.
Voilà, ça doit être ça. Après, Magog, Zo, alors ça se dit Candia. Candia, d'accord. Encore une fois, c'est les parties est de la ville, de la carte. Après, Madai, Zo, Macedonia, Macedonia, c'est Macédoine. Maintenant, ça c'est Madai. Yavan, mais c'était des personnes, ça, hein, c'est des enfants. Oui. Des enfants. Eux, ils se sont dispersés et chacun a fait son pays.
Et Yavan. Canadia, il est où, Canadonia?
Canadia?
Canadia, il est où? Dans la carte, on ne voit pas.
Non, il n'y a pas tout marqué, dis-moi.
Non, parce qu'il a marqué Germania.
Ouais,
il a marqué Macedonia.
Non, mais Germania que tu vois là-haut, ce n'est pas celui-là. Celui-là, c'est Germania, c'est l'Allemagne. Mais lui, il te dit que Germania, ce n'est pas l'Allemagne. Parce qu'il y a, il y a Germania chez les Dom, ça, c'est l'Allemagne. Et Germania tout court, c'est
là,
un
c'est
autre.
Germania, il y a marqué.
Germania, ouais. Après, il nous dit Yaman, c'est la Grèce, qui est Machmao. Tuval, alors, c'est un endroit qui s'appelle Bet Oniaki. Mesher Zou Mosia. Mosia, je ne sais pas, d'accord, c'est des endroits. Mosia. Tiras, voilà, ça c'est l'avant-dernier. Tiras, Pligeba, Rav Simai, Verabanan. Vamrele, Rabbi Simon, Verabanan. Khadamar, c'est quoi Tiras? C'est Bet Traika. Apparemment, c'est des endroits qui étaient connus à l'époque, hein. Bon, peu importe. Mais Khadamar, Zou Paras. Voilà. Pourquoi on appelle cet endroit-là c'est où? Moussia. Moussia, c'est quoi? C'est Paras. D'accord? Tanié, il y a même Breta qui prouve que Moussia, c'est Paras. Mm-hmm. Donc, il fait partie des enfants de Yefet. Tanié, Rabbi Yosef, Tiras, Zou, Paras. Ok. Ça, c'est les enfants de Yefet. Et le Gomer, le dernier, il n'est pas marqué ici. On dit qu'il était un peu plus bas dans le sud. Maintenant, les enfants maintenant de Shem. Puisqu'on a parlé des enfants de Yefet, la Gemara va aussi un petit peu détailler les enfants de Shem, de Ham, pardon, de Ham. Et il y avait qui? Il y avait, alors le pasouk, qu'est-ce qu'il nous dit? Pasouk entier, Ubne Kush, Seva, Ubne Kush, les enfants de Kush, de Ham. Il y avait Seva, Havila, Safta, Rama, Saftecha, Ubne Rama, Sheva, Udedan. Alors, il dit c'est qui? Safta, Vera, Rama, Saftecha. Trois personnes, donc eux, ils vont faire des pays, des villes de leur famille. Alors, Taner Rav Yosef, c'est qui Safta Vesaftecha? Il y en a deux, Safta Vesaftecha. C'est des noms, hein, un qui s'appelle Safta, un qui s'appelle Saftecha. Ouais. C'est qui ceux-là? Sakistan Gavaita Vesakistan Braita. C'est quoi Sakistan? Ça veut dire c'est des endroits entourés de montagnes, des kfarim qui s'appelaient, un endroit qui s'appelait Sakistan. Alors, il y avait des kfarim, des sortes de villages, des villages, d'accord, qui étaient à l'intérieur, entourés de murs, entourés de comment on dit, de montagnes, entourés de montagnes. Et après, à l'extérieur de cette Sakistan Gavaita, il y avait Sakistan Badraita. C'est comme si tu disais, il y avait Paris, Paris et sa banlieue. Ou alors, non, il y avait Paris interne et Paris externe. Je sais pas moi, imagine-toi, voilà. Un s'appelait Safta, un s'appelait Saftecha, mais c'était l'une dans l'autre. Une ville entourée de la plus grande.
La même ville, le même endroit, quoi.
Voilà.
Une à l'extérieur de la montagne, une à l'intérieur.
Voilà. Et qui était entourée. Alors, Braïta, Ben Chada le Chada Mea Parse, entre chaque ville, enfin, la séparation qu'il y avait entre les deux pays, on va dire, il y a une centaine de parsot, ça veut dire une parsa, on avait dit c'est 4000. Une parsa, c'est 8 km. Donc, mais à part ça, ça fait 800 km entre chaque ville, qui séparait entre les deux. Ve'ekefa, et le contour de tout ce pays-là, Alfe Parse, il faisait 1000 parsot, ça veut dire 8000 km. Bon, c'est un grand pays, ça. Parce que la France, quand tu la traverses en dehors, en bas, elle te fait.
800
km. Non, plus 1000 et quelques. La France, c'est pas mille et quelques. Mais non, bon, ok, mais bon, là, il s'est dit 8000 km qui est entouré. Bon, entouré. Après, nous dit le pasouk, puisque là, on a commencé à parler des villes de la, des pays des enfants de Noir, on va parler aussi des enfants
de Couche.
De Shem. D'accord? De Couche. Non, de Couche. Bah, t'es Réchit Mamarto, les enfants de Couche, et on parle de Nimrod là. Réchit Mamarto, Bavel, c'est que Nimrod, quand il est devenu, il a décidé de prendre le pouvoir et de se révolter contre Hachem, de faire un tour de Babel. Donc il a commencé à régner, Réchit Mamarto, Bavel, Ve'arar, Ve'akad, Ve'kalné. Alors, c'est qui ces quatre-là? Bavel, Kemashma, Bavel, d'accord, Irak. Arar, c'est Orichut, c'est-à-dire une ville. Apparemment, nous, on comprend rien, mais à l'époque, ils habitaient dans Bavel, donc ils connaissaient tous les endroits. Orichut. Ve'akad, c'est Beshrar, je ne sais pas encore comment on dit ça.
Bashkar.
Kalna, Zenofer, Ninfi. Bon, c'est OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est les villes que régnait dessus Nimrod. Maintenant, Minha Aretzaï, Yadza Ashur. Ashur, au début, c'était un homme, d'accord? C'est un homme qui était assez pieux. Il croyait en Hachem. Et quand il a vu que Nimrod veut se révolter contre Hachem et construire une tour, et ça, apparemment, c'était même ses enfants, quoi, d'accord? Et il a vu que ses enfants ils sont tombés dans le piège de Nimrod. Donc il a dit, c'est comme ça, je quitte tout le monde et je me sauve. Je ne vais pas rester avec cette fréquentation. Et il est parti. Minaret, ça y est, Yatsa Ashur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et il va partir du côté d'Assyrie, d'accord? Un peu plus haut que Babel d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Tane. Alors, il va construire trois villes. Hachem va lui donner trois villes. Tane Rav Yosef, Ashur, déjà Zesilek. D'accord? L'endroit même qui va s'appeler Ashur, c'est Silek. Il s'appelle Silek, c'est-à-dire. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il va construire Et Nineveh, Vetre Chobot Ir, Vet Kalach. Il va voir, on va voir si Hachem lui a donné la récompense. Nineveh, Kemashmao, c'est la ville Ninive.
Avec Yona.
Rechobot Ir, Zuprat de Mishan. C'est la ville de Mishan qui se trouve sur le fleuve Euphrate, sur l'Euphrate. D'accord? C'est une ville qui existait encore à l'époque de la Gemara, puisque la Gemara, elle parle souvent de légendes de Mishan. C'est des gens qui étaient mauvais. On ne peut pas leur faire confiance. Et Kalach, c'est une autre ville, Zou, Prat de Boursif. D'accord? Kalach, c'est une ville qui est sur le Prat, sur le Frat, d'accord? Prat de Boursif qui s'appelle Boursif. La ville s'appelle Boursif, qui était connue à l'époque. Vetresen. Donc qu'est-ce qu'il va construire? Ninveh, Chobot Ir, Vet Kalach. Vet Resen, la ville de Resen qui se trouvait Ben Ninveh ou Ben Kalach. Point. I Yair Agdola. Ok. Alors Resen, elle se trouve entre Ninveh et Kalach et c'est la grande ville. Resen, nous dit la Gemara, Zé Actispon. Ok. Actispon. Bon, si vous avez une fois à Bavel, vous cherchez ces villes, peut-être que vous les trouvez. D'accord? Actispon. Iyahir Agdola. Alors, qu'est-ce qu'il dit le pasouk Iyahir Agdola? Sur quelle ville on dit Iyahir Agdola? Enyodea im Ninveh Ayir Agdola, im Resen Ayir Agdola. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Le pasouk nous dit Vaiven, tac. Vet Resen, il a construit Resen, Ben Ninveh ou Ben Kalach, Iyahir Agdola. Est-ce que c'est Resen qui Iyahir Agdola ou c'est Iyahir Agdola, ça revient sur Ninveh? D'accord? Qui se trouve entre Resen, entre Ninveh et Kalach, qui est Ninveh, la Ayir Agdola. Donc c'est qui la Ayir Agdola? C'est Ninveh ou c'est Resen? La Gemara te dit, Keshu ou Omer, quand il dit dans le Sefer Yona, Ninveh, Ve Ninveh, Aïta Ayir Agdola l'Elohim, Ma'alach Roshet Yamim, Afe Omer Ninveh, Ayir Agdola. Quand on ne sait pas qui est la grande ville, de qui on parle, eh bien on va chercher ailleurs. Et ailleurs, on va voir que Ninveh, on dit dessus, Ayir Agdola l'Elohim, il fallait la marcher, il fallait la traverser pendant 3 jours. Comment ça fait 3 jours de marche?
On a dit 40 000 par jour.
Exact. Ça fait 120 000. 120 000, si 1 000 c'est 1 km, 120 km. Pour traverser toute la ville, une ville, 120 km. Ok.
Ça sert.
Ça aide quand même.
Ça aide.
Alors.
Je n'ai pas trouvé sur le drive.
Véchem, puisqu'on a parlé donc des noms de personnages de la Bible, on va parler maintenant des géants qu'il y avait à l'époque en Eretz Israël. Véchem, Cham, ça veut dire dans la ville de Hebron, il y avait qui? Il y avait trois, quatre. Cham, Achiman, Shishai, Vetalmai. D'accord? Ces trois, c'était les Yelidé à Anak, les enfants des géants. À part Arba, qui est le père, donc il s'est fait quatre. D'accord? Donc c'est qui les enfants? C'est Achiman, Shishai, Vetalmai. Alors Tana, pourquoi il s'appelait comme ça? Achiman, Achiman, Meyuman, Sheba Achim. Non.
Rapport,
là on est passé, c'est fini. Hein?
Quel rapport avec la...
Non, le fait qu'on a parlé des noms avant, ouais. Des noms de Achour, des noms etc., de Bavel, de RR, de Yéfed, etc. Là aussi, on continue à détailler des noms.
D'accord.
Alors, pourquoi il s'appelait Achiman? Parce que c'était le plus costaud des frères. Meyuman Sheba Achim, le plus habile, voilà, c'est lui le frère. Le balèze parmi les balèzes, mais c'est lui le plus balèze. Shishai. Pourquoi on l'appelle Shishai? Shemesim et Taharetz Keshritot. Tellement qu'il était, quand il marchait, tellement qu'il était gros, grand et balèze, c'est que quand il faisait un pas par terre, il enfonçait le pied dans la terre et ça faisait une sorte de. Un trou et puis ça s'appelle des Shechritot. Donc, Shishai, Shesam, bon, on ne sait pas comment comprendre dans ce mot. Shishai, c'est qui met des Shechritot Baharetz. Talmai, c'est pareil. Pourquoi on appelle Talmai? Chez Messi, mais t'arrêtes Telamim. Quand il marche, donc c'est le même système que son frère, mais seulement il a un autre nom. Mais c'est le même principe. Quand il marchait, il faisait des Telamim, c'est des sillons. Hein, des Telamim, des sillons. Il marchait, il faisait des trous. Il faisait des trous partout. Un pied ici, plein de sillons. Puis tu vois, tu savais qu'il était passé là, quoi. Il ne fallait pas.
Une empreinte.
Il ne fallait pas essayer de. Voilà. De le rattraper.
Mais c'est des images, ça ou c'est
Non, il y avait des géants.
C'est des géants.
Ouais. Bon, ouais, des gens, puisqu'ils se sont battus avec eux, parce que, comment il s'appelle, Caleb Ben Yefouné, il s'est battu avec ces gens, Vadaï.
Quand
il a conquis Israël, il a rentré.
Après. Mais pas quand ils ont visité.
Non. Alors d'abord, Rachid dit que cette version-là, elle n'est pas écrite dans la Gemara, ça veut dire que ce n'est pas une version. Qu'il faut la lire, mais on va lire quand même, parce qu'il n'explique pas Rachid dessus. D'avoir Achiman, Bana Anat. Achiman, bon, ok, d'accord, il a construit la ville de Anat. Shishai Bana Alush, Talmai Bana Talbush. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, chacun a construit cette ville-là. Et quel rapport avec son nom, je ne sais pas. Alors, il y a l'idée Anak. Pourquoi on les appelait les Anak? Les géants. Pourquoi un géant, on l'appelle un géant? Shema Anikin, Ahama Bekomatan. Anak, ça veut dire que ça vient du mot anaka, c'est un collier. D'accord? C'est que notamment qu'ils étaient géants, quand tu voyais devant toi, ils se mettaient derrière le soleil, tu voyais qu'une partie du soleil. C'est-à-dire que tu voyais comme si le soleil, il avec sa nuque et sa tête, il cachait une partie du soleil et le soleil faisait sur lui comme une sorte de demi-cercle, quoi, de collier. D'accord? Comme, le soleil derrière, comme ça, donc tu voyais. Et puis, tellement qu'il était impressionnant, quoi, tu vois, il cachait une partie du soleil. C'est pour ça qu'on appelle les Anakim des Anakim. Les gens, ils appellent Anakim, mais la chante Anak, mais la chante collier. On continue. Amar Biyoshua ben Evi, Amar Bi. Amar Biyoshua ben Evi dit au nom de Rebi, Atida, Romi, Shetipol, Beyad, Palas. Qu'est-ce qu'il y a?
Tu m'as dit.
Avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Amar Biyoshua ben Evi? À la fin des temps, Romi, elle va tomber entre les mains des Perses. D'accord, des Iraniens. Chez Neymar, la reine Shimu Atzat Hashem, Asher Yahatz, Al-Edom, ou Marche Votav, Asher Hashav Al-Yoshvé Teman. D'accord, écoutez ce que Hashem a pensé sur Edom et sur Edom, donc c'est Romi, et sur Yoshvé Teman, ceux qui sont assis au sud. Teman, c'est le sud. C'est à l'époque qu'il était assis au sud, c'était Edom. Le sud d'Israël est habité par Edom. Imlo, Isrevum, Tseire Hatzon. Si ça ne va pas être le cas où les Tseire Hatzon. Les jeunes troupeaux, ils vont les attirer. Ils nous yassim aleem Noam. S'il va pas leur mère, s'il va pas mettre sur eux, Noam, je crois que c'est un collier qu'on appelle ça. Non, c'est pas Noam, c'est Neveem. Ils nous yassim aleem Neveem. C'est pas un collier là-dedans. Ça veut dire que Neveem, c'est leur maison. Encore si je vais pas les exiler de leur maison. Yashim, la chante Shemama, Mirila. Chante Shemama, ça veut dire chante vide, d'accord. Donc je vais les vider de leur maison, je vais les exiler. Donc apparemment, on parle ici de qui? Que sur Edom, d'accord, et Rome, ils vont être exilés, partis, irés à Tson. Et on comprend que c'est qui irés à Tson? On comprend que c'est les Perses. Alors, Matkif les Rava, on verra pourquoi. Matkif les Rava, bar oula, maï mashma de haïti irés à Tson, parasou. D'où tu comprends que irés à Tson, ça fait allusion aux Perses? Dirtiv, haï la chère haïta balakarnaïm. D'accord? Donc, Machemadaï ou Paras. Ou Machemadaï ou Paras. Vema Yavan. Dirti va tsefir Asaïr. Melech Yavan. Il y a ici une histoire de Daniel. D'accord? Qui nous fait. Il nous raconte dans Perek Tet, tu crois, là-bas. Il nous dit. Daniel, il a eu une vision. Il a eu une vision. Et il se réveille de cette vision. Puis il demande au Malach Gavriel, c'est quoi? Il parlait bien avec Malach Gavriel. Il lui disait, c'est quoi cette histoire? Il a vu qu'il y avait un bélier qui était près d'un fleuve qui s'appelle... il dit le nom là, je ne sais plus. Il ramène dans Passouk, peu importe. Il est près d'un fleuve. Et que ce bélier-là, il avait deux cornes. Une grande et une plus petite. Et avec cette corne-là, il encornait tout ce qu'il y avait autour de lui, de tous les côtés, à part du quatrième côté. Il encornait, il tuait. Jusqu'à ce qu'il tourne sa tête et il voit que sur l'autre côté, il y a un bélier. Oui, parce qu'il tourne sa tête et il voit qu'il y a un séhir. Un séhir, c'est un bouc. Il voit dans son rêve qu'il y avait un bouc avec une seule corne au milieu, qui était une corne très très dure, qui va venir cette corne-là et qu'elle va encorner donc ce bélier qui était là-haut et qu'elle va le détruire, qu'elle va le tuer, etc., etc. Et demande à Gabriel, c'est quoi ce rêve? C'est quoi cette vision? C'était pas un rêve. Il lui dit, le bélier que tu as vu là-haut, c'est Babel, d'accord? Non, c'est Parasemadai. D'accord? Le bélier que tu as vu là-haut, c'est Parasemadai, parce qu'il y avait une grande corne, une petite corne. Un, c'est Madai, et l'autre, c'est Paras. Ils étaient.
Dans la Megillah, on dit Parasemadai.
Voilà, pourquoi? Parce que Parasemadai, Madai, il a pris son gendre, c'était le futur roi de Madaï. Donc, ils ont fait ça une famille.
Ils ont fait alternance, on avait dit, non?
Ils étaient une famille, voilà. Madaï et Paras, c'était le gendre et le beau-père. Et donc, ça, c'est Yavan. Ça, c'est, pardon, Paras et Madaï. Et le bélier et le bouc, c'était Yavan. Yavan qui va... Il lui a annoncé que va venir Yavan et va détruire l'empire perse. D'accord? Ça, c'est l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit, la Gemara? Il dit, donc, qui te dit que le bélier, le tson, là, le Tson qui va venir, qui va détruire Rome, c'est les Perses, ou les Perses, peut-être c'est les Grecs. D'accord?
Il y a une Gemara qui dit que c'est les Perses, c'est les Grecs qui ont détruit Rome.
Une Gemara?
Oui, qui se sont alliés.
Rome, non, c'est au contraire.
Non, Israël s'est allié à la Grèce pour chasser Rome d'Israël, après la destruction du deuxième temple.
Non, c'est au contraire. Ils sont liés romains pour chasser les Grecs.
Ah oui,
pour chasser les, pas les Grecs, pour chasser les, oui, les Grecs.
Les Grecs, excuse-moi, c'est écrit là.
Romains. Alors, donc j'ai une question. Il dit, qui te dit toi que c'est Syrie, Hatson, c'est Babel, c'est Perse, peut-être c'est les Grecs. Alors il n'a pas de réponse. Qui s'allie grave Haviva bar Surmaki, Amra Kame Deahu Mirabanan. Il a posé la question. Donc grave Haviva au Hachamim. Amarle man de l'Oyada pirouché krae. Motif Tuta le Rabbi, celui qui ne comprend pas les psukim, il ose bien poser une question contre Rabbi, que c'est Rabbi qui a dit cette phrase là, que Romi va tomber entre les mains de Perse. Tu sais même pas lire les psukim, tu oses parler contre Rabbi? Il y en a qui font ça, tu vois. Alors il dit Maï tsiire atson, zutra de achoui. C'est qui tsiire atson? C'est pas marqué tson, c'est marqué tsiire atson. Le jeune des tson, le jeune des troupeaux, de qui on parle, et là il faut faire allusion à celui qui est le jeune des frères, des enfants de Yefet. Sutra d'Achoué, Betané, Rabbi Yosef, Tiras, Zé, Paras. Les frères qu'on a vus là, il y en avait sept. Germamia, Gog, et qui c'est encore? Gomer, Oumagog, Madaï, Tuval, Oumécher, Vé, Tiras. Tiras, c'est Perse. Donc c'est qui Tseiré à Tson? C'est pas par rapport.
Hein? Rabbi Yosef, il avait dit ça.
Et quoi? Non, c'est un passouk ça.
Non, mais Rabbi Yosef, il
avait dit Tiras et Madaï. Oui, et c'est ce qu'il va dire aussi la même chose.
Voilà.
Tiras et Madaï, Tiras et Paras. Donc, quand on dit Tiré à Tson, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Tson. C'est vrai que le mot Tson, tu peux dire ou Yavan ou paras. Mais là, c'est tseiretson, c'est le petit de tout le monde. C'est qui le petit de tout le monde? C'est Perse. Vous remarquez que Yavan et Paras, ils viennent du même père. D'accord? Edom, ils viennent de Ham. Yavan et Paras, ils viennent de... ils viennent de Yefet. D'accord? Amar Rabba Bar Hanan, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yehuda Rabbi Elai. Qu'est-ce qu'il a dit? Au nom de Rabbi Yehuda Bar Elai, le Tana. Atida Romi, même chose. Shetipol Beyad Paras. D'où c'est? Kavachomer. C'est une logique qui est Kavachomer. Mais forte raison. Oma Mikdash Rishon, Shebena Ou Bene Shem. Le Beit Hamikdash Rishon qui a été construit par les enfants de Shem. Vehirivu Kasdim. Et c'est tombé entre les mains des Kasdim. Naflou, Kasdim, Biad Parsim. D'accord? Que les Perses ont tué les Kasdim, qu'ils ont détruit le Beit Hamikdash. D'accord? L'histoire, c'est comme ça. Les Kasdim, c'est les Babel. Les Perses, l'Empire babylonien est tombé entre les mains des Perses. Pourquoi? Parce qu'ils ont détruit le Beit Hamikdash. Mikdash Sheni, Shebenaou Parsim, Vechirivu Romaim. Et nous disons chez Iplou, Romim, Biad Parsim. Donc le Mikdash Sheni qui a été construit par les Perses et détruit par les Romains, à Kavachomer, que les Perses vont se venger de ça. Si les Perses ont puni les Babyloniens
qui ont détruit
un Beit Hamikdash qui est construit par Shem, alors Kavachomer, que les Perses vont punir les Romains qu'ils ont détruit un Beit Hamikdash qui a été construit par eux-mêmes. Ya ou pas ya?
Non. C'est logique donc, que les Romains soient détruits, mais c'est pas logique qu'ils soient détruits par les Perses.
Si les Perses ont déjà détruit quelqu'un qui a un Beit Hamikdash, que c'est pas qu'ils ont construit, qu'avant première qu'ils vont détruire un Beit Hamikdash qu'eux ils ont construit. Ils vont détruire les gens qui ont un Beit Hamikdash.
Mais si logiquement ils auraient pu.
Alagma te dit, Amarav, Atida Paras, d'accord, Shetipol, Biadromi, lui dit le contraire. Non, c'est les Perses qui vont tomber entre les mains des Roms. Amrou les Rav, Kahana, Veravasi, ses élèves, les Rav, Benouye, Beyad, Satouré, d'accord? C'est que ceux qu'ils ont construits, ils vont être détruits. Et non, Mechila, Benouye, Beyad, Satouré, est-ce que c'est possible que ceux qu'ils ont construit le Mikdash, ils vont tomber entre les mains de ceux qu'ils ont détruit le Beit Hamikdash? C'est pas logique. C'est ça. Benouye, les constructeurs, ils vont tomber, Beyad, les Satouré, Beyad, ceux qu'ils ont détruits. Pourquoi les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'ils ont fait les Perses et tombé entre les mains des Romains alors qu'eux, ils ont construit le Beit Hamikdash. Amar Léo, En Xerahin, Xerata Melechi. Ouais, c'est une Xerah Minashama, et on verra pourquoi. Ils vont tomber entre les mains des Romains.
Non.
On verra pourquoi c'est une Xerah Minashama.
Ils vont tomber entre les mains des Perses parce que les Romains ont détruit ce que les Perses ont construit le deuxième Beit Hamikdash.
De quoi tu parles? Non, non, là c'est une autre. Rav, il dit autre chose. Il dit les Perses vont tomber entre les mains des Romains.
Donc Rome va détruire la Perse.
Il m'a posé la question pourquoi, au contraire, eux ils ont construit et ils ont détruit. C'est les Romains qui doivent tomber dans les mains des Perses. Il dit non, Xerata Katouf. On verra pourquoi. Ikad Amre Amarle, une autre réponse. Première réponse, j'ai répondu, c'est Xerata Meir. Deuxième réponse, Amarle, Inhunami Akasatre Beknishta. Il faut savoir que les Perses, ils ont des coups de tête, des coups de folie. Et ils décident du jour au lendemain de détruire des batek nesiot comme ça. Ils font des xerot, tac, ils détruisent des batek nesiot. Donc, puisqu'ils détruisent des batek nesiot, ils tombent entre les mains des Romains qui ont détruit aussi le Beit Hamikdash. Maïtak Mara, Tanyana Miyachi. Voilà la Breta qui va nous dire c'est quoi la xera. Atida, Paras, Shetipol, Beyad, Romi. Pourquoi la Perse va tomber entre les mains des Roms? Chadad et Satre, Beknishta. Premièrement, parce qu'ils détruisent des batek nesiot. Veot. Xerat Amelechu, Sheipelu Bonim, Beyat Sotrim. Hachem, il a fait une Xera que les constructeurs vont tomber entre les mains des destructeurs. Damarav Yuda Amarav, En Ben David Ba, Hachetif Shot, Machut, Romi, Arisha, Bechol Aolam Kullo, Tisha Chodashim. Le Mashiach peut venir qu'une fois que le règne de Edom, de Rome, il va régner dans le monde entier sans que personne les empêche. Pendant 9 mois. 9 mois, il faut qu'ils règnent dans le monde entier.
Qui donc, c'est ils vont...
Rome. Donc ça veut dire qu'il va détruire tout le monde, dont les Perses. Shenemar, la reine itenem ad et yoleda. La reine, je vais leur donner le temps de régner dans le monde jusqu'au moment où le temps qu'il faut pour une pour yoleda, le temps d'une femme enceinte. Yalda veyeter echav yeshuvun al ben Israël. Et après le reste des frères, ça veut dire le reste des frères de si on parle de Yefet, etc. Tout ils reviendront el ben Israël al ben Israël. Israël qui va reprendre le pouvoir, ça veut dire avec la venue du Mashiach. Donc il veut dire de là qu'à la fin des temps, Rome va régner sur le monde entier. Alors on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas c'est quoi, on ne comprend pas. En tout cas, on attend de voir. Parce que c'est marqué, il y a Midrashim qui dit que c'est Ishmael aussi qui va régner sur le monde entier, etc. Bon, il y a plein de Midrashim, on attend de comprendre. Après, point, ça s'arrête là. Donc là, on a fini avec les noms, avec les pays, avec les tribus. Et avec les géants qu'on vient de voir ici. Et ça reste une marloquette. Qui va tomber entre les mains de qui? Des Arabes entre les mains des...
Aujourd'hui, on ne sait pas si on est dominé par qui, alors, aujourd'hui? Les Edom?
Aujourd'hui, on est ouais, c'est aussi une marloquette.
Mais Edom, est-ce que Romi ou c'est pas Romi?
Non, Edom, c'est Romi. Edom, c'est Romi. Tout simplement parce que Edom, à l'origine, c'est pas... Romi, c'est pas Esav. Romi à l'origine, c'est pas Esav.
On dit que c'est Esav parce que.
Mais c'est, en vérité, Edom, c'est on avait dit les à l'époque des Hashmonaïm, donc ils ont fait une guerre avec Edom, ils ont gagné la guerre, ils ont capturé énormément d'Edomim qui les ont pris esclaves en Eretz Israël. De ça, ils sont sortis des esclaves qui étaient proches de leur royaume, proches des pas Hashmonaïm, on va dire, mais proche des Hérode et de tous les rois qui étaient à l'époque de qui étaient après les Hashmonaïm, qui étaient des rois juifs, enfin Hérode. Hérode fait en vérité Hérode c'est un Edom lui-même. Et après ils sont convertis, ils étaient esclaves, etc. Mini conversion, oui non c'est Barlog avec Etzou. Edom à l'époque c'était Esav, d'accord, oui. Mais ils étaient toujours en guerre. Ils étaient avec Israël, d'accord, parce que Edom c'était des même Hérode il vient de Edom. Donc ils étaient yad biyad avec Israël. Et quand ils se sont battus contre les Romains, d'accord, à l'époque de Beth Amikdash, ils étaient avec les Juifs, Edomim. Ils étaient ensemble. Ils ont toujours été avec les Juifs contre Edom, contre la Rome, contre les Romains. Quand on va appeler Edom, et comment les Edomim vont faire partie de Rome, c'est à l'époque de Yimach Shemo Yeshu, que lui, il va faire sa religion-là. De sa religion, il va faire ce qu'il va faire. Donc Edom, les Edomim qui étaient en Eretz Israël, ils vont tous se rapprocher à ce Yeshu et ils vont tous devenir des adeptes de cette religion-là. Et quand Rome va décider après 300 ou 400 ans ou 500 ans après Jésus, ils vont décider de prendre cette religion-là. Constantin, il va décider de prendre la religion catholique et l'instaurer à Rome. Donc Edom va faire partie à partir de là, on va appeler Rome Edom, parce que tous les Edomim, ils ont donné le ton, on va dire. Les Edomim qui sont devenus les adeptes de Yimach Shemo, donc c'est eux qui donnaient le ton après à Rome, parce que Constantin, il connaissait pas trop cette religion, donc il a instauré cette religion-là, et c'était entre les mains de Edom. Donc quand on dit Edom Romi, en vérité, c'est un mélange.
C'est
quoi.
Edom qui descendait c'est un mélange. De Esav.
Voilà. Et après cela, ils sont installés à Romi et c'est devenu après Edom. Mais c'est pas.
De nos jours, on parle du Vatican, on parle de.
De quoi? Edom, on parle du Vatican. Ouais, alors après oui, après les Edomim qui sont mélangés à Rome, qui sont devenus des prêtres et des machins. Après c'est devenu, voilà, après c'est devenu Edom, ils sont passés. On va dire Edom, ils sont passés à Rome plutôt. C'est pas qu'il y avait Rome.
Donc,
c'est pas.
Dire que tous les chrétiens sont Edom.
Aujourd'hui, non, les chrétiens ne sont pas Edom, les chrétiens, ils ont été forcés de devenir chrétiens. C'est un peu comme les Arabes, ils ont forcé les ils faisaient des guerres, ils faisaient des machins, ils forçaient des pays entiers à devenir ou chrétiens ou musulmans. Et c'est pas l'Europe, c'est pas Edom. Ben oui, l'Europe est devenue Edom, est devenue chrétien, mais c'est pas lié à Edom, spécialement. Et donc pourquoi on disait tout ça? Pour dire que Edom. Ouais. Ouais, voilà. Ok, encore un petit peu. Tanoura Banane, on a fini donc l'histoire des noms. Tanou Rabanan, la Gemara nous dit, Kol. Alors, on revient à la Lishka du Kohen Gadol. La Lishka par Adrin, d'accord, c'était la Lishka, c'était la chambre où dormait le Kohen Gadol dans le Beit Hamikdash pendant 7 jours. Là-bas, il faisait vraiment, il avait son endroit pour dormir, pour se doucher, etc. C'était une chambre, c'était sa maison. Nous dit la Gemara comme ça, Mahloket Hachamim et Rabbi Yehuda, Kol Alishakot Shayu Bamikdash, Lo Hayulaim Mezouza. Toutes les chambres qu'il y avait dans le Beit Hamikdash n'avaient pas de Mezouza. Pas Hayav, c'est pas une maison. Une Mezouza, c'est quand il y a une maison. D'accord? Chutz Midishkat Peradrin, Shayaba Bet Dira le Kohen Gadol. À part, d'après Hachamim, la seule chambre qui avait une Mezouza, c'est la chambre du Kohen Gadol, qui là-bas il vivait. Et c'était une Bet Dira, c'était sa maison. Ça c'est Hachamim Amar Rabbi Yehuda. Ve'alo kama leshakot yo bamikdash shayalem bet dira velo yalem mezuzah. D'accord, il y avait pas que la chambre du Kohen Gadol qui était une chambre à coucher, on va dire. Il y avait la chambre des Kohanim qui étaient là-bas, qui dormaient les dormaient en dehors du Beit Hamikdash. Les Kohanim, il y avait les Kohanim qui gardaient le Beit Hamikdash. Il y a une mitzvah de garder Shmor et le Beit Hamikdash Mishum Kavod. D'accord, de ne pas laisser un Beit Hamikdash comme ça vide, il n'y a personne. D'accord, la Gemara a dit, Vechi le Beit Hamikdash, il a besoin, on verra ça plus tard, je crois. Vechi le Beit Hamikdash, il a besoin qu'on le garde. Il y avait des gardes autour, et à l'intérieur et à l'extérieur. Qu'on s'en sert des gardes. Hachem, il est ici, Hachem, c'est Hachem qui te garde, c'est pas toi qui le garde, le Beit Hamikdash. La Gemara a dit, Mishum Kavod Malchut. Quand un palais qui est fermé, qui est vide, ça fait Zachouma, quoi. D'accord, c'est vrai que dans une synagogue, il ne faut jamais essayer de tout éteindre. Ça fait bien. Il faut essayer une petite lumière, même la nuit. La nuit, il faut aussi une lumière pour montrer que voilà, c'est y a du kavod, c'est pas une laissée à l'abandon. C'est marqué dans la halakha. Voilà, pour le kavod du makom. Et donc, Beit Hamikdash, il y avait des chomrim à l'intérieur, les lévim étaient à l'extérieur, pardon, et les kohanim étaient à l'intérieur. Et ils dormaient là-bas. C'était un travail qu'ils avaient. C'était une garde toutes les semaines, mais ils dormaient là-bas, quoi. Ils étaient obligés d'être là-bas. Voilà, donc tu vois qu'ils dormaient là-bas, et quand même. Tu dis qu'il n'y avait pas de mezuzot. Donc pourquoi le Kohen Gadol aurait une mezuzah? Et là, l'ishka, alors, Amar Rabbi Yehuda, encore une fois, va à l'okama, les shakot, ayouba migdash, shayalem bedira, des chambres qui avaient des maisons pour dormir, velo yalem mezuzah. Donc pourquoi il y en avait 8 dans le lishkat peradrin? Et la lishkat peradrin, gezera est à. C'était Hachamim qu'ils ont instauré, de même qu'il n'est pas chayav de mezouza, mais il faut les mettre quand même. Pourquoi ? Agma va dire plus tard pourquoi. Pour ne pas qu'on s'imagine que, pourquoi pas qu'on sent que le Kohen Gadol, il est enfermé dans une chambre, dans une prison. D'accord ? Si tu le mets dans une chambre pendant 7 jours, il ne sort pas, ça fait un peu rasra, quoi. C'est comme si qu'on le mettait en quarantaine. Alors on lui a mis une mezouza pour que ça fait argacha que c'est une maison, c'est pas une chambre, c'est pas une amiklat, quoi. Il n'y a pas de. Il rentrait pour étudier avec lui déjà. Mais bon, c'était sa maison, quoi. Tu ne rentres pas comme ça. Zera est à. Alors, comment on dit Maïta Amadé Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda, il te dit que c'est même pas la peine de mettre une mezouza dans la chambre du Kohen Gadol. C'est qu'une Zera des Rabanan, une Takana. Amar. Et c'est qui ça, c'est Rava? Qu'est-ce qu'il y a marqué ici en petit?
Rabba. Moi j'ai Rabba.
Rabba, voilà. Amar Rabba, Kassava Rabbi Yehuda, Kol Bait, Sheno Asuy, Limota Chama, Vimota Kshamim, Eno Bait. Toute maison qui n'est pas faite pour habiter l'été et l'hiver, qui n'est pas une maison qui est Khashuva, si elle n'est pas Khashuva, on habite là-bas l'été, ou que l'hiver, ou qu'une petite période. Eh bien, ce n'est pas considéré une maison, comme ça, il pense Rabbi Yehuda. Donc, le Kohen, il venait une semaine par an. Il n'allait pas en hiver là-bas. Donc, c'est fait que pour un petit peu de temps. Eh bien, ça, on n'est pas khayab. Ce n'est pas considéré une maison. Donc, c'est pour ça qu'il est patour minatora de la mezouza. Donc, moi, il pose une question. On va s'arrêter là après. Etive, Abaye. Abaye pose une question. C'est marqué, ve'aktiv, ve'iketi, et bet achoref, al bet akaitz. Encore une fois, c'est un pasouk sur le Khorban Beit HaMikdash, qu'à l'époque du Khorban Beit HaMikdash, ça fait un petit peu avant, les Juifs, ils étaient très pépères, très à l'aise, ils aimaient les moutarotes, ils aimaient les plaisirs et les désirs, ils se faisaient des maisons un peu partout. En hiver, ils allaient dans le sud, et en été, ils allaient dans le nord, faire des maisons de vacances, quoi, les maisons de vacances, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, les maisons d'été, voilà, pas secondaires, parce qu'il y avait six mois, mais maison d'été, maison d'hiver. Comme Shlomo HaMelech aussi, on dit qu'il avait sa maison d'hiver et sa maison d'été. D'accord ? Et il nous dit que Hachem va dire, ah ben vous croyez que vous allez vous la couler douce comme ça, Beth Amikdash il est souillé et tout, puis vous payez des maisons d'été et des maisons d'hiver. Eh ben je vais vous iketi, je vais détruire vos maisons d'été et vos maisons d'hiver. Machma Mikan, qu'il y a des maisons qui sont d'été, des maisons qui sont d'hiver. Qu'est-ce que tu me dis, Rabbi Yehuda, qu'une maison qui n'est pas faite pour l'été et pour l'hiver n'est pas une maison ? Ya ou pas ya ? Rabbi Yehuda a dit, une maison qui n'est pas faite pour l'été et pour l'hiver n'est pas une maison. Il faut qu'elle soit faite pour les deux. Et si on te dit que la maison s'appelle Beta Choref et Beta Kait, je détruirai la maison d'été, machma que c'est une maison.
Non, mais ce n'est pas la même maison.
Pourquoi ?
Elle a une fonction que d'hiver et l'autre a une fonction que d'été.
D'accord.
Donc, Rabbi Yehuda, il veut dire que la maison, elle fait fonction d'hiver.
Non, mais tu l'appelles Baït ou pas ?
Ah, d'accord.
Tu l'appelles Baït. Donc, si tu l'appelles Baït, ben, Chavim Mzouza. Avec moi, tu réponds non. Alors, elle ne s'appelle pas Baït. Elle s'appelle Bet Kait, c'est Bet Choref. Elle a un nom associé. Donc, Mamalé, Bet Choref ou Bet Kait, il crée. Baït Stam, l'eau, il crée. On n'appelle pas une maison. C'est pas une maison. C'est on appelle ça maison d'hiver.
Secondaire.
Maison, voilà. Maison avec un nom à côté, associé avec un autre nom. Mais appeler une maison tout court Baït, quand on dit une maison, ah, c'est une maison qui est faite pour vivre tout le temps. D'accord ? Quand tu veux parler d'une maison qui est faite que pour vivre une petite période, on l'appelle maison d'hiver, maison d'été, maison de vacances, maison de je sais pas quoi, maison de montagne. Mais dire maison tout court, c'est que si la maison est habitée jour et nuit. Non, elle peut être habitée jour et nuit, pas condamnement. Oui, c'est-à-dire.
Ça
ne
veut pas dire 6 mois ici, 6 mois là.
Non, une maison que tu vis que 6 mois ici, 6 mois là, c'est pas une maison, c'est une maison d'hiver. Maison, elle s'appelle maison d'hiver. Mais une maison tout court, c'est une maison qui s'appelle Bait. Et là, c'est toute l'année. Et comme la maison du Beth Amikdash, la chambre du Kohen, elle était que pour 7 jours, donc c'est pas une Bait. Si c'est pas une Bait, c'est pas une Mezouza. Ah, pourquoi je mets Mezouza ? Pour avoir, pour pas qu'on dise que le Kohen Gadol, il est enfermé. Bah, ou Khadona, il est là, amen.